La condition de vie des étudiants, elle est plus possible.
Un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Oui, nous sommes lundi et vous avez rendez-vous avec nous une soirée énervée, toujours en deux temps et à deux vitesses. Première partie, c'est l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, dans le énervé, un plateau étudiant vers la révolte. Quelques jours après l'immolation tragique d'un étudiant à Lyon, colère sur les campus. La question de la précarité a remis les étudiants dans la rue. Quelles vont être leurs actions? Quelles sont leurs revendications? Destruction de livres le 12 novembre à l'université de Lille. Paroles confisquées dans les amphithéâtres, que raconte cette radicalisation de la censure menée par des groupes d'étudiants? On va parler de tout ça avec vous, Christophe Bourseiller, et avec nos invités. Un titre, plusieurs?
J'ai plusieurs titres. J'ai un titre totalement codé que personne ne peut comprendre, sauf peut-être vous, Robbie Border et moi. De la misère en milieu étudiant? Point d'interrogation.
Oui, ouais, très bien, Bourdieu. Ouais.
Étudiants, ils bloquent ou ils débloquent? Point d'interrogation.
Ouais,
l'université, elle se radicalise. Ben, ça, c'est plus banal, oui, si oui, vous voulez. Ouais. Étudiants, la violence se justifie-t-elle? Ou alors étudiants, chien-lit en perspective?
Ah,
et ça,
ça,
encore une fois, peu de gens peuvent comprendre.
Bah, sauf les gaullistes.
Sauf les gaullistes. Ils sont peu nombreux.
Une révolte du son ce soir, Marion Guilbault, pour commencer la semaine.
Carrément, mais carrément. Il est punk, il est queer, il est gay, il est juif, il est sauvage, il est spirituel, il est politique.
Est-ce qu'au moins, il est sadomaso?
Toutes les cases, c'est l'américain Ezra Furman et il va être en live à la fin de l'émission.
Bien sûr qu'il est sadomaso,
comme
tout le monde.
Faire.
Voilà. Et puis autre temps, autre parole, ce sera le énervé la suite. Cette semaine, France Inter plus de Cuba et de musique à l'occasion du 500e anniversaire de sa capitale, La Havane. Give me Cuba, premier épisode ce soir à l'origine du son. Je n'en dis pas plus, le énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de vous lancer dans un éditorial historique, Christophe Bourseiller, je vous présente nos invités. Amalia Bordet, vous êtes étudiante en master cinéma à Paris 8. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Robbie Border, vous êtes politologue, spécialiste des mouvements étudiants. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Orlane François, présidente de la Fédération des associations générales d'étudiants. C'est la FAGE, c'est le principal syndicat d'étudiants. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et juste à vos côtés, Blandine, porte-parole de Solidaire étudiants. C'est bien ça?
C'est bien ça, bonsoir.
Bonsoir à vous. On commence, Christophe?
Alors,
allez, c'est parti.
Vous savez, je vous apprends rien, Laurent, si je vous dis que, grosso modo, de la seconde à la licence, j'ai défilé chaque année, bloqué mon lycée puis ma fac, senti le fumet des lacrymos pour protester contre les réformes successives de l'éducation nationale, dont par ailleurs, là c'est très personnel, j'ignorais tout. Étais-je un benêt manipulé, plutôt un jeune esprit, avide de liberté, goûtant le plaisir de l'école buissonnière, mais c'est encore une fois très subjectif. Un jour, le proviseur de mon lycée, qui me faisait passer en conseil de discipline en raison d'absence injustifiée due à un mouvement de grève, émis un point de vue que je trouve aujourd'hui assez éclairant. Vous dénoncez, dit-il, vos conditions d'études, mais vous n'êtes pas mes employés et je ne suis pas votre patron, vous êtes les usagers d'un service public. Bon sang, Laurent, mais c'est bien sûr, les étudiants qui bloquent une fac sont dans la même situation que les usagers du métro qui bloqueraient le métro. Alors, il y a des usagers qui ont les moyens de payer leur ticket. Et puis ceux qui sont pauvres, ceux qui sont forcés à resquiller, il y a une misère en milieu étudiant. Elle est réelle pour certains. Nous en avons tous en mémoire, bien sûr, l'horrible histoire de ce jeune homme qui s'est récemment immolé par le feu à Lyon. Alors, Blandine, vous représentez ici Solidaire étudiant, dont fait partie ce garçon qui aujourd'hui est dans le coma. Quand vous bloquez les facs après un tel acte, ne risquez-vous pas, alors là c'est la question un peu provoque, ne risquez-vous pas d'être accusé de récupération?
Alors, je pense pas qu'on puisse parler de récupération pour plusieurs raisons. Parce que déjà, quand notre camarade décide, enfin poussé par le désespoir lié à sa précarité, d'aller s'immoler devant le Crous de Lyon vendredi dernier, il laisse un message sur Facebook qui explique très précisément que c'est cette précarité qui l'a poussé à commettre son geste. Donc ça serait quelque part d'autant plus anormal qu'on ne réagisse pas et que qu'on ne réagisse pas à cette réalité qui est la sienne, mais qui est aussi celle de nombreux étudiants et étudiantes. Donc non, il s'agit pas de récupération. Il s'agit non seulement de poursuivre ce que ce camarade a fait tout au cours de sa vie, du moins ces trois dernières années, mais
aussi parce qu'il était investi dans les instances du syndicat.
Il était investi au syndicat, il était investi dans les organes représentatifs de sa fac. Donc oui, c'est quelqu'un qui a
Il dit « J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de m'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous ».
Oui, alors ça c'est parce que derrière les institutions du CROUS, les institutions de l'université précarisent, il y a des personnes, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des voix politiques qui ont été portées et ces voix politiques qui dénoncent donc c'est ces voix qui ont passé des mesures de libéralisation du service public, qui ont qui ont fait du CROUS un organisme visant la rentabilité. Donc c'est tout ça qu'ils dénoncent par ces noms.
Orlane François, vous êtes présidente de l'AFAS, un autre syndicat étudiant. Vous êtes sur la même ligne que votre collègue.
Alors, je crois en tout cas que celles et ceux qui essayent de dire depuis plusieurs jours que l'acte qui a été fait par ce militant n'est pas un acte politique se trompent.
C'est ce que dit Gabriel
totalement.
Attal. Hein,
c'est ce qu'ont dit plusieurs ministres. C'est ce qu'a dit bon nombre de personnes représentant la majorité aujourd'hui. C'est une énorme erreur de ne pas avouer cet élément-là. Aujourd'hui, ça a été un acte politique. Ça vient d'être dit dans son message. Ce jeune homme est assez clair. Et je pense que ça, il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, la question de la précarité étudiante est un vrai problème
politique.
Qui est dénoncé politique et qui est dénoncé depuis des années maintenant par de nombreuses organisations étudiantes. Et ça, il ne faut surtout pas le mettre de côté.
Romy Mordeur, comment vous comprenez que ça se passe aujourd'hui, alors même qu'il accuse justement depuis Sarkozy puis les instances européennes? Qu'est-ce qui s'est dégradé depuis combien de temps on perçoit cette dégradation de la vie des étudiants?
Écoutez, la dégradation, elle remonte à loin. Comme il a été dit, les organisations étudiantes, mais aussi ATD Quart-Monde, mais aussi le Secours Populaire et toute une série d'organisations ont attiré l'attention là-dessus. La question du moment, moi je voudrais revenir sur l'immolation. Dire que c'est pas un geste politique, si on prend des précédents...
Bah, on peut écouter ce que dit Gabriel Attal à ce propos-là, je crois, puisque c'est un son que nous avons. Si vous voulez, écoutons peut-être la parole de Gabriel Attal.
Oui.
Il n'est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ces jours. Pensez à tous les jeunes, à tous les enfants qui vous écoutent. La responsabilité, ça n'est pas d'attiser ces braises-là et de donner le sentiment à des jeunes que ça peut être une solution qu'en arriver à un tel acte.
Robbie Mordeur.
Là, il répondait à Daniel Obono, qui disait « c'est un acte politique ».
Oui. Il a voulu le faire comme acte politique. Je vais vous dire, il y a le désespoir, et c'est peut-être le dernier message qu'il a voulu laisser. Je crois qu'il faut respecter ça. De la même manière, on ne peut pas dire que l'immolation de Jan Palach, en janvier 1969 à Prague, ne soit pas politique. L'immolation des bonzes pendant la guerre du Vietnam, qui est la première fois que je voyais des gens s'immoler à la télévision, c'était un acte politique.
Il y a Mohamed Bouazizi en Tunisie en 2011.
Donc ça, c'est un premier... sur la précarité, beaucoup a été dit. Moi, je voudrais dire deux choses supplémentaires, peut-être. Il y a 40% des étudiants qui travaillent. Le pourcentage n'est pas nouveau. On le constate dans les années 50. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de nombre. Ça veut dire 1 million d'étudiants qui travaillent. Et le travail étudiant lui-même a changé. Il a été, pourquoi? Parce que là où il y avait, par exemple, le Pionica, qui permettait à des étudiants de travailler tout en poursuivant des études, ça a été pour d'autres publics, moins qualifiés. Il y a les stages qui se sont développés. Résultat, il y a l'ubérisation même du travail étudiant, c'est-à-dire qu'on n'a même plus la protection du droit du travail. La précarité, c'est aussi ça. C'est ces transformations du monde du travail qui ont des effets sur les étudiants.
Mais après, c'est compliqué pour lui, parce qu'il était dans une situation, je crois qu'il avait triplé son année.
Sa deuxième année.
Il était
perdu
il
sa
vivait
bourse.
Dans des conditions épouvantables, parce que j'ai lu dans la presse que son logement était insalubre, avec des punaises de lit, des cafards, mais qu'il n'aimait pas s'attarder sur cette situation personnelle. Amalia, vous êtes vous-même étudiante en master, vous vivez une précarité aujourd'hui?
Je pense que je peux dire oui. Après, il y a une question de légitimité qui se pose, c'est quel est le critère de précarité. Mais et je pense que je fais partie des privilégiés parmi les gens précaires.
Donc, c'est-à-dire vous vivez avec combien par mois? Comment faites-vous?
J'ai des bourses, donc je suis à l'échelon 5, donc c'est à peu près 450 euros par mois. Depuis cette année, j'ai le droit aux APL, puisque vous savez, dans les familles, il faut choisir de prendre les APL ou non, selon le nombre d'enfants, pour avoir des avantages.
L'aide au logement.
Oui, l'aide au logement. Et puis, j'ai un stage à côté qui me permet de gagner de l'argent.
et qui me permet, en effet, vous parliez de l'ubérisation. J'ai la chance de faire un stage dans une formation qui me plaît et d'avoir une institution généreuse. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les tickets restaurants. Tout le monde n'a pas le transport qui est pris en charge. Donc c'est aussi quelque chose qui est, en tout cas, je me considère privilégiée, même si, bien sûr, ça me fait des semaines à 45 heures à 45 heures.
Une question peut-être sur les actions qui vont être menées. Il y a l'horizon du 5 décembre. Et au niveau des organisations syndicales, on en est où? J'ai entendu que l'AFAJ ne voulait pas participer à ce rendez-vous. Pour quelle raison?
En effet, le 5 décembre est une mobilisation sur la question de la réforme des retraites. Pour l'instant, nous n'aptons pas à nous mobiliser contre cette réforme qui n'en est pas encore une, sur laquelle on est encore en cours de négociation avec les acteurs concernés. Donc pour l'instant, nous n'appelons pas la mobilisation du 5 décembre.
Donc il n'y aura pas une convergence des luttes par rapport à votre syndicat.
Sur cet élément-là, non, on ne pense pas qu'il y ait un intérêt.
Alors que Solidaires étudiants, ils sont dans la convergence des luttes. Là, je disais, j'ai reçu un mail aujourd'hui d'un de vos camarades qui s'appelle Emilio Bismuth, qui dit « Rejoignons la rue le 5 décembre aux côtés de la RATP, des cheminots, des travailleurs et des gilets jaunes pour organiser la riposte ». Vous êtes d'accord, Blandine? Oui, j'imagine.
Eh bien, tout à fait. Alors, nous, on appelle aussi au 5 décembre. Alors, on appelait déjà au 5 décembre avant, pour plusieurs raisons. Parce que cette réforme des retraites, même si elle n'a pas encore eu lieu, elle est en préparation. Et on sait très bien que si on veut peser, il faut le faire dès maintenant. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut construire un rapport de force avec le gouvernement pour faire entendre notre voix. Et en plus, cette réforme des retraites, elle concerne directement les étudiants et les étudiantes. Parce qu'actuellement, ce que dit le gouvernement, c'est que c'est les nouveaux entrants sur le marché du travail qui vont être concernés. Donc c'est une manière déjà de diviser entre les travailleurs et les étudiants, et les jeunes, entre guillemets, et donc d'essayer d'éviter peut-être qu'il y ait une solidarisation. Mais du coup, ça veut dire que c'est nous directement qui allons être touchés. Et au-delà de ça, c'est cette réforme, ça fait partie de tout ce qui fait aujourd'hui qu'il est difficile de percevoir un avenir plus radieux. Donc aujourd'hui condamné à la précarité, plus tard on est en train de compliquer l'accès aux allocations chômage. Donc ça veut dire que si on se retrouve dans des situations de précarité au cours de notre vie professionnelle, ça risque d'être compliqué aussi. Et on a une réforme qui se prépare et qui va limiter notre accès à la retraite. Donc tout ça s'articule.
Comment vous comprenez ce discours, Arlène François, vous qui n'êtes pas du tout dans ce projet-là?
Alors, moi je suis d'accord pour dire que c'est une réforme qui va toucher et concerner évidemment le public qu'on représente, qui est le public des étudiants et des jeunes particulièrement. On a une vigilance toute particulière, une attention pas toute particulière, et on y travaille depuis plusieurs mois pour que cette réforme, encore une fois, et on le dit avec d'autres acteurs, ne soit pas une réforme d'économie, parce qu'aujourd'hui le système des retraites n'a pas besoin d'une réforme d'économie. On a besoin d'une justice sociale sur cette réforme, et il faut la construire. On est dans les constructions, on verra bien comment ça avance, et à partir du moment où on aura des annonces consolidées du gouvernement, là, il y aura un positionnement qui pourra être fait. Aujourd'hui, on a un rapport qui a été publié, on est encore dans la négociation, et bien évidemment qu'on ne laissera pas passer une réforme d'économie qui viendrait faire de l'économie sur le dos des futurs employés et travailleurs.
Mais qu'est-ce que vous pensez par exemple de Gabriel Attal? Donc c'est lui qui est un peu en première ligne dans ce mouvement étudiant actuel, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation, qui dit « Il existe des aides d'urgence qui peuvent être ponctuelles ou annuelles pour des situations où les jeunes n'y arrivent plus et ne peuvent plus simplement vivre parce qu'ils n'ont pas les moyens. » En gros, il dit « Il y a déjà des aides. » Vous êtes d'accord ou pas?
Alors, d'accord pour dire qu'il y a déjà des aides, mais par contre, également qu'elles ne sont pas actuellement suffisante pour pouvoir permettre à des jeunes de vivre correctement et surtout qu'il y a aujourd'hui des problèmes sur l'accessibilité de ces aides et sur la manière dont elles sont attribuées.
Et bien on va voir justement ça dans la deuxième partie. Quelles sont les revendications et sur quoi portent les revendications des étudiants?
La côte en haut de la ville est avare en nombre l'été. C'est là rondin docile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il y marche comme l'on vole, l'air de ne pas y toucher, mais le moindre bruissement l'affole, le fait se redécourager, revenir sur ses pas. Et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour à la tire. C'est ce que ce sont. Lui dit que tout son latin.
sa divise, aux volets bleus et entrouverts, au vélo vert, à ce à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour, sur soi. La pente en haut de la ville est avare en ombre l'été. C'est la ronde indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il en redescend comme on sort d'une nuit blanche et agitée. Le moindre bruit seulement l'endort, le fait se remettre à rêver, revenir sur ses pas, et puis recommencer à regagner l'en bas. C'est qu'il y a tout l'entour, consumé par l'essence et l'été. Son latin résumé à répéter tout bas. Voudrais-tu danser? Voudrais-tu danser? Voudrais-tu redanser avec moi ou pas? Hein? C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour, sur soi.
L'art de la défaite, l'esprit de Cioran est au programme de Batlick, programmation Master Philo pour Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous.
Aujourd'hui, si on a une hausse de la précarité étudiante, c'est parce que d'un côté, nos dépenses augmentent, mais de l'autre, nos aides ne suivent pas.
Moi, par exemple, j'ai le droit qu'à 250 euros de bourse. Mes parents peuvent à peine m'aider.
Et clairement, les bourses, elles ne suffisent pas pour moi à vivre sans que j'ai besoin de travailler à côté. Clairement, moi, à la fin des journées, je suis fatigué.
Laurent Goumard.
Voilà, et j'ai pas le goût de travailler derrière.
En France, un étudiant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Sur France Inter.
Étudiants, ça gronde, précarité, blocage des facs, mais pour quelles revendications? On en parle avec nos quatre invités, Amalia Bordet qui est étudiante en master cinéma à Paris 8, Robbie Morder qui est politologue, Orlane François, présidente de la FAGE, et Blandine, porte-parole de Solidaires étudiants. On va bien sûr parler des revendications, mais dernièrement, je crois que c'était jeudi, le secrétaire d'État à l'enseignement, Gabriel Attal, a reçu la FAGE et l'UNEF. Qu'est-ce qu'il en est sorti?
Alors, on a pu, durant ces rendez-vous, refaire un point sur les sujets qui étaient pour nous des sujets primordiaux, sur la question d'accompagnement social des étudiants avec les bourses étudiantes, les aides au logement. C'est aussi la question
des choses qui existent déjà.
Qui existent déjà, mais de faire le point sur ce qui était pour nous insuffisant autour de ces aides, de parler aussi du logement étudiant dans sa généralité, de parler aussi de la santé étudiante, qui est aussi une vraie source de précarité chez les jeunes. Malheureusement, ce rendez-vous, alors maintenant il faut voir ce qui va se passer, parce qu'on refait la même chose avec Frédéric Vidal aujourd'hui, mais malheureusement ce rendez-vous n'a pas axé sur des vraies annonces. Maintenant on va voir si ça se fait dans les jours qui arrivent.
C'était pas concret, c'était juste un rendez-vous diplomatique.
Et vendredi dernier c'était avec...
C'était Blandine,
c'était avec Solidaires étudiants.
Tout à fait, vendredi dernier. Donc,
pareil.
Nos constats sont un peu similaires, c'est-à-dire que, Monsieur Attal... bien pris connaissance de tout ce que nous lui disions et n'a rien proposé de plus qu'un pansement sur une jambe de bois.
Vous, quelles étaient vos revendications plus précisément ?
Alors nous, on en a une liste assez conséquente qu'on a adressée.
Le lapsus est magnifique.
Non, qu'on a adressé donc à Madame Frédérique Vidal, donc la ministre en charge de l'enseignement supérieur. Et donc nos revendications principales concernent à court terme la revalorisation des bourses pour sortir immédiatement les étudiants, les étudiantes de la précarité, du seuil de pauvreté, leur faire permettre de passer le seuil de pauvreté. À plus moyen long terme, la Fédération solidaire étudiante revendique le salaire étudiant. Après, d'un point de vue logement, parce que c'est quand même une dépense, un poste de dépense hyper important pour les étudiants et les étudiantes, on demande la construction, la mise à disposition de beaucoup plus de logements de cités universitaires, que ce soit par la construction ou la réquisition des logements vides. Également que...
j'ai entendu parler de la gratuité des transports, de la gratuité de l'enseignement et de la gratuité de l'alimentation universitaire.
Tout à fait, tout à fait. Parce que
c'est pas un peu maximaliste comme revendication.
Je pense qu'il faut demander beaucoup.
Pour avoir rien.
Pour avoir l'essentiel, pour avoir le plus possible. Parce que, quand on est une population étudiante, en fait, on passe la plupart de notre journée devrait être concentrée sur nos études parce que c'est déjà un travail implantant de se trouver en cours, de réfléchir, de produire du savoir, parce que tout ce qu'on produit en termes d'exposés, en termes de dossiers, etc., c'est des choses super importantes qui prennent du temps. À côté de ça, on n'a pas vraiment la possibilité de travailler.
Mais vous lancez aussi une
idée. Le travail étudiant, c'est quelque chose qui n'est pas non plus très nouveau. J'ai été étudiant et je travaillais par ailleurs aussi. C'était possible.
C'est pas pour autant que c'est souhaitable.
C'est pas pour autant que c'est la solution.
D'autant plus que part très importante des étudiants et des étudiantes qui sont confrontés à cette situation, d'autant plus quand ils travaillent plus d'un mi-temps, explique que cela rejaillit directement sur leurs résultats et sur leurs études.
Après, il y a une idée intéressante dans ce que vous dites, qui est très audacieuse et qui est même à la limite un peu surréaliste. Peut-être c'est l'idée du salaire étudiant. Est-ce qu'on peut payer les étudiants ? Ce à quoi Gabriel Attal répond, mais oui, mais d'ailleurs, on y réfléchit dans le cadre du revenu d'existence. Qu'est-ce que vous en pensez, Robbie Mordeur ?
D'abord, c'est pas une idée nouvelle, puisqu'elle est avancée.
Non, mais c'est un peu surréaliste, non, de dire les
déjà,
étudiants.
Attendez, on va voir après. Moi, je vous dis déjà ce qu'il en était. Ça a failli être voté en 1951, puisqu'elle était portée par le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe MRP à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas abouti parce que c'était la fin de la législature. Je suis pas certain que ça soit quel que soit son nom, que ça soit si surréaliste. Après tout, moi j'ai des étudiants qui sont des étudiants qui commencent leur vie par des études, et des étudiants qui sont des salariés, qui sont là en formation, sous le statut de formation continue. C'est le même enseignement, c'est le même savoir, c'est la même production de savoir.
Les uns sont payés, pas les autres, c'est ça que vous voulez dire.
Et si vous voulez... Plus fondamentalement, ça renvoie à qu'est-ce que c'est qu'un étudiant. On parlait de la misère en milieu, on a cité de la misère en milieu étudiant de 68, des situationnistes. Mais l'étudiant est considéré comme inactif dans les statistiques. On se rend pas compte à quel point le travail intellectuel, depuis longtemps, est totalement intégré dans la production. Sur le fond, je ne parle pas des tactiques c'est les uns les autres, mais sur le fond, pourquoi n'est pas rémunéré ce travail, qui est une sorte de pré-travail pour certains.
Et vous avez senti que Gabriel Attal était plutôt favorable à cette perspective ?
Alors nous, ce qu'on propose, c'est plutôt la question d'une aide globale d'indépendance. Donc c'est d'avoir un accompagnement qui soit assez conséquent et surtout plus personnalisé qu'il ne l'est aujourd'hui pour mieux coller aux besoins de chaque jeune et prioritairement d'avoir une augmentation forte des bourses dans un premier temps. Aujourd'hui, ce qui pose problème avec ce gouvernement, mais comme beaucoup et comme généralement, c'est la question d'investissement financier. C'est toujours ce qui fait un petit peu
reculer,
c'est toujours ce qui fait un petit peu frémir le gouvernement quand on demande à ce qu'il y ait un investissement massif, parce que je crois, en tout cas nous on pense que les priorités qui sont mises par le gouvernement ne sont pas les bonnes en termes de priorités budgétaires, et que on nous répète souvent que l'argent magique ça ne se trouve pas, que ça ne s'invente pas. Par contre, quand ce gouvernement veut investir quelque part, il arrive à le faire. il le fait.
Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée du revenu universel, cette idée un peu plus philosophique peut-être qui est évoquée par le gouvernement là aujourd'hui?
Alors on travaille actuellement sur le revenu universel d'activité. En effet, ça c'est un débat qui est en cours. Nous, on est assez vigilants à ce qui se passe autour du revenu universel d'activité parce qu'il y a beaucoup de débats autour de la fusion des minima sociaux, etc., qui pourraient au final plus désavantager les bénéficiaires et faire des économies à l'État que vraiment accompagner au plus proche des gens. Donc on est assez vigilants à ce qui se passe. Par contre, nous, on est pour quelque chose qui soit une aide équitable, qui ne crée pas d'inégalités encore plus et qui vienne aider au plus proche des jeunes par rapport à leurs besoins pour les rendre les plus indépendants possibles.
Amélie Bordet, vous êtes, vous, étudiante. Quelle est votre position par rapport à ce débat sur le salaire de l'étudiant, universel?
En fait, je pense qu'il faut adapter. Je suis pour la généralisation des bourses, mais après, je pense qu'il y a des privilégiés dans les étudiants aussi. Il y a des échelles de différence. Et je pense aussi qu'il faut prendre en considération la particularité de chaque situation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est qu'on base les bourses aujourd'hui sur des critères très généraux. Qui font que...
C'est une aide au mérite, c'est ce que dit le ministre, une aide au mérite, une aide à la mobilité dans le cadre de Parcoursup, des aides d'urgence.
L'aide au mérite, oui.
L'aide au mérite, déjà, déjà, ça parle d'une vie de la méritocratie, mais c'est bien, et déjà, il l'a diminué depuis des années. Là, c'est passé, il me semble, à un an. On l'a distribué sur un an. Jusqu'à l'année dernière, c'était sur 3 ans. Et il y a encore quelques années, elle était doublée. Mmh. Donc,
L'aide au mérite, comment vous regardez ça, vous?
Alors, pour l'aide au mérite,
merci. Alors, à propos de l'aide au mérite, nous, on trouve ça assez compliqué parce que...
Vous qui avez dénoncé la sélection. Tout à fait.
Parce que cette aide au mérite, en fait, finalement, elle ne profite pas nécessairement à ceux à qui elle s'adresse en premier, parce que la méritocratie... les études sociologiques le montrent, ça ne marche pas, parce que l'arrivée... à l'université se décide déjà précédemment, parce que ce n'est pas de toute façon tous les étudiants, les étudiantes, qu'ils aient eu mention très bien au bac ou pas, sont légitimes à étudier. Et ce n'est pas parce que on n'a pas réussi à passer la barre symbolique des 16/20 que on doit se trouver dans une précarité. Donc cette aide au mérite nous paraît pas pertinente. Tout le monde fournit le même travail, donc tout le monde doit se retrouver avec les mêmes conditions décentes de revenus. Et pour revenir d'ailleurs sur un point qui a été mentionné, l'idée du salaire étudiant, pour nous, c'est aussi le fait que tous les étudiants et les étudiantes fournissent ce travail, et d'autant plus les plus précaires qui ont donc les situations les plus difficiles. Mais même pour des étudiants, des étudiantes qui peuvent venir de familles plus aisées, ça peut être très compliqué parce que, alors non seulement ils n'auront pas le droit aux bourses, mais ils peuvent être en rupture familiale. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui font qu'ils n'ont pas de revenus non plus. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir à la mise en place justement d'un salaire étudiant qui prenne en compte le fait que l'étudiant travaille et que l'étudiant est un travailleur en formation.
Est-ce que vous êtes soutenu par les professeurs et par le cadre de l'université?
Alors,
Orlane François.
Sur la question d'un accompagnement qui doit être plus fort des étudiants, je crois que dans la majorité des enseignants et des équipes pédagogiques, il y a une volonté qui est sans doute la même que la nôtre. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème parce que en tant qu'enseignante, ils vivent aussi la précarité de leurs étudiants sur le territoire.
D'accord.
Et c'est une vraie réalité. Et pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on doit avancer prioritairement aujourd'hui.
Mais finalement, je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais selon les sondages...
C'est un habitué du cas.
Non, pas du tout, mais 10% des étudiants sont précaires. C'est beaucoup, mais il reste les 90% qui ne sont pas précaires. C'est-à-dire, c'est pas non plus comme si la précarité avait envahi tout le système étudiant. Si?
Ça dépend de ce qu'on appelle précarité. Vous avez la précarité, c'est la précarité du moment. Ceux qui sont dans des contrats précaires... Mais la précarité aussi, c'est pour beaucoup, et ça, c'est un grand changement par rapport aux périodes précédentes, enfin lointaines. La précarité, c'est celle de l'avenir. La thématique de l'étudiant pauvre, on la rencontre dès l'avant-guerre. Il y a même des films, des affiches, l'étudiant pauvre, une pièce de théâtre. Bon, simplement, on peut dire qu'on a des étudiants pauvres qui font des sacrifices parce qu'ils savent qu'au bout, une fois qu'ils sortent de la fac, ils vont avoir une position. Or, aujourd'hui... La précarité, hein, c'est comme les CDI. Hein. Le CDI, c'est pas quelque chose qui est moins précaire que le CDD. Des fois, c'est l'inverse, ça n'empêche pas le licenciement. Et là, c'est pareil, la précarité est aussi dans comment est l'avenir, comment se présente l'avenir. Et ça, ça fait partie des nouveautés qui expliquent beaucoup de ce qui se passe dans l'université, où il ne faut pas simplement voir la photographie sociologique du moment, mais aussi comprendre les dynamiques.
Et je crois qu'il faut aussi sortir je pense, de la logique du chiffre. Enfin, alors certes, 10%.
Pourtant, c'est ce que vous demandez.
Du chiffre de ce qu'on annonce. Il n'y a que 10% des jeunes qui sont en précarité. Il y a 20% de jeunes sous le seuil de pauvreté. Alors, en effet, on ne dit pas qu'il y a tous les jeunes qui sont dans une situation catastrophique de précarité. C'est pas ce qu'on dit. Par contre, ce qu'on dit, c'est que ça existe. Et qu'on a des jeunes aujourd'hui qui peuvent pas manger à leur faim, qui peuvent pas avoir un toit au-dessus de leur tête.
Quelquefois, un euro pour manger, oui.
Voilà. Qui sont aujourd'hui en précarité, mais aussi sociale, parce que la précarité financière, ça emmène aussi une précarité sociale qui est très, très forte. Et c'est sur ça. Et quand on parle trop de chiffres, ça, c'est aussi très dur pour un jeune qui est vraiment dans une difficulté d'entendre, non, mais c'est pas grave, il y en a que 10%. Bah, oui, parce que lui, en fait, il le vit. Et donc ça, c'est pas acceptable.
Blandine.
Et pour rebondir sur ce que dit Orlan et ce que disait tout à l'heure,
Robbie Mordeur.
Ces 10%, ça représente un nombre important si on passe au nombre d'étudiants et d'étudiantes qui sont concernés. Et puis, il faut aussi prendre quelque chose en compte, c'est que quand on fait ces chiffres, quand on fait ces chiffres pour voir combien d'étudiants sont sous le seuil de pauvreté, par exemple, et déterminer qu'il y en a 20%, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que parmi ceux qui ne sont pas sous le seuil de pauvreté, il y en a beaucoup qui, pour passer ce seuil, travaillent. Et donc, c'est ce travail salarié, on en revient à ce qu'on disait, c'est que ça participe des conditions de précarité et à compliquer les études pour ces étudiants, ces étudiantes.
Alors moi, je vais continuer dans les chiffres. La revalorisation des bourses, vous demandez de combien, en fait ?
On demande pour que les jeunes puissent sortir du seuil de pauvreté, enfin de la précarité.
Et ça représente quoi, par exemple ?
Ça représente plusieurs centaines de millions d'euros. Si on veut vraiment avoir un investissement qui aujourd'hui répond aux enjeux, ça faisait 3-4 ans qu'on n'avait pas touché au montant des bourses. À côté de ça, le coût de la vie, lui, il ne nous a pas entendu. Les APL qui ont été amputés de 5 euros il y a un an et demi, qui ont été désindexés de l'inflation. À côté de ça, les frais d'inscription qui sont maintenant fixés sur l'inflation. Les contributions qu'on doit payer tous les ans qui sont, elles, fixées sur l'inflation. Donc à un moment donné, stop, et il faut avoir un vrai investissement qui vienne répondre aux enjeux qu'on partage aujourd'hui.
Alors on continue de prendre de la hauteur tout de suite avec Brittany Howard. Stay High, c'est sur France Inter.
Stay High, Brittany Award s'élève dans le NRV.
À Lille, l'ancien président François Hollande devait donner une conférence sur la crise démocratique.
France Inter.
Hollande assassin, Hollande casse-toi. L'ancien président n'est pas encore arrivé lorsque 200 étudiants forcent les portes de l'amphithéâtre.
Le nouveau rendez-vous.
Et arrachent les pages de son dernier livre.
J'en ai franchement rien à cirer du fait que quelques étudiants n'aient pas pu voir François Hollande.
La violence, il faut y faire maintenant très attention, car ça devient un mode de recours contre ce qu'est la forme de la démocratie.
Laurent Goumard.
Étudiant au programme du master du NRV, ce soir on en parle avec nos invités, on a parlé précarité, revendications sociales, revalorisation des bourses par exemple, mais un autre sujet aussi alimente ce qui se passe dans les universités.
C'est un peu le complément d'objet direct du reste, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de gens qui disent que ils se demandent si l'université n'est pas en train de se radicaliser. On a entendu ce qui est arrivé avec François Hollande qui a vu les pages de son livre déchirées, jetées en l'air,
sa conférence annulée.
Auparavant, il y a eu alors un peu dans le désordre Alain Finkielkraut, Sylviane Agacinski ou Mohamed Sifaoui pour des raisons diverses, mais enfin c'était toujours dans une enceinte universitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une radicalisation inquiétante Orlane François en ce moment, dans l'université?
Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de radicalisation importante. De notre côté, on condamne les actes de violence et ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment à Lille. Par contre, il ne faut pas mettre de côté la violence que subissent les étudiants dans la précarité. Mais à côté de ça, non, on ne trouve pas qu'il y a une forme de radicalisation dans l'université. Il y a des actes qui sont à condamner, évidemment, mais ce n'est pas une généralité.
La grille du ministère de l'enseignement supérieur fracturée, ça ne vous gêne pas? Vous dites c'est...
Je ne dis pas que ça ne me gêne pas. Je dis que c'est un élément qui est arrivé dans une manifestation. En tout cas, que nous, on ne pense pas
vous
que ce soit des
quoi,
on, non,
dites,
je ne pense pas que ce soit des méthodes qui soient. En tout cas, nous, c'est pas des méthodes qu'on va utiliser et qui sont pour nous des bonnes méthodes qui servent la cause qu'on défend. Par contre, je ne crois pas que ça soit non plus une forme qui vienne se radicaliser partout dans les universités et qui
quand même,
soit très
il y a une stratégie aujourd'hui qui est mise en place lors de chaque grève étudiante. C'est un phénomène. Bon, il y a toujours eu des piquets de grève.
Il y a toujours eu, je crois.
C'est l'idée du blocage.
Je pense que Roby Mordeur pourra en parler, mais je crois que ça a toujours existé.
Tout à fait.
Sur la parole interdite, les conférences annulées, par exemple.
Alors, d'abord, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui s'est passé dans les années 70. Je crois que Christophe Bourseiller a bien travaillé là-dessus.
Tu parles, donc, c'était un pilier de grève. Ouais.
Donc, on a des
sans qu'il mesure véritablement l'ampleur de son geste à l'époque.
Voilà, avec des affrontements entre étudiants, des piquets de grève. Bon, les formes changent un peu. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très localisé. Et je répéterai ce que j'ai déjà dit, parce que ça me semble, le traitement médiatique me semble totalement déséquilibré. Il montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Donc tout le monde montre le doigt, et une porte dégondée, bon, c'est pas bien, elle a pas été cassée. Dans une manifestation d'ailleurs, dire stratégie veut dire qu'il y a des gens qui organisent ça derrière.
Ah bah ça c'est certain.
Ça existe pas à l'échelle nationale, on a par contre effectivement localement. Il faut traiter cas par cas, je pense que à la fois l'affaire de Hollande, de Finkielkraut, d'Agacinski, moi je suis en général pour la liberté d'expression, et j'insiste sur une chose, le problème, c'est pas tellement ceux qui sont aujourd'hui sont frappés, qui ont fait des cas médiatiques, qui sont des gens connus, qui s'expriment par ailleurs, c'est que l'énorme masse de travail intellectuel, de conférences, d'études, de recherches qui existent dans l'université...
Et passer sous silence.
Et passer sous silence, c'est-à-dire c'est une censure par le silence. Et c'est ça qui compte, c'est pas étonnant si après, bah, des gens se disent, le seul moyen de faire parler de nous, c'est de faire des actes que normalement on ne devrait pas
faire. C'est ce que dit un étudiant cité dans Le Parisien, le blocage c'est la seule manière de s'exprimer. Vous êtes d'accord, Blandine?
Porte-parole de Solidaires étudiants.
Alors, le blocage c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'exprimer, un moyen faire entendre des voix. Ça peut être un moyen d'action effectivement. Après, sur la radicalisation dans les universités, etc. Bah, comme viennent de le dire les autres intervenants, il faut bien voir que ça n'a rien de nouveau. Il faut arrêter d'essayer de voir des transformations comme ça à tout prix. Non, les moyens de lutte étudiante ont peut varier selon les contextes locaux et la conjoncture un petit peu, mais ça reste globalement les mêmes. Et quand au bout de 5 jours qu'un étudiant a tenté de s'immoler devant le Crous de Lyon en invoquant la précarité étudiante qui touche par ailleurs énormément d'étudiants et d'étudiantes, quand la première fois que le gouvernement réagit, c'est suite à une grille de ministère dégondée ou à une conférence annulée.
Ils ont quand même réagi par rapport à l'événement tragique qu'a vécu l'étudiant. Ils ont réagi immédiatement, en fait.
Ils se sont rendus à l'université et ils ont discuté avec l'université. Mais il n'y a pas eu de prise de position à propos de la précarité étudiante.
Il y a en ce moment même un mouvement qui est en train de se développer.
Amélie Bordet, vous êtes étudiante, vous êtes syndiquée.
Non.
Pour quelle raison ?
Parce que j'ai jamais eu cette culture du syndicalisme. J'ai pas une famille militante. C'est quelque chose je suis engagée ça vient aussi du fait que je fréquente des personnes qui viennent de ce milieu. Mais c'est vrai que c'est difficilement explicable de dire pourquoi on n'est pas syndicalisé. Enfin, c'est...
C'est bien parce qu'elle nous laisse sans voix, sa parole un peu mourante.
Vous étiez syndicalisé, vous ?
Jamais, j'étais contre les syndicats, personnellement. Mais c'est pour des raisons
personnelles. Ça remonte à loin, donc.
Politique, oui, un peu, oui, j'ai évolué quand même.
Il y a un engagement, on parle que de la forme syndicale traditionnelle, il y a énormément de formes d'engagement. Quand on avait travaillé avec le GERM, groupe d'études de recherche au mouvement étudiant, avec les archives de la Cité des Mémoires étudiantes, on s'est aperçu qu'en fait, il y a une participation associative extrêmement importante dans l'université, en dehors de l'université. Donc là tout ça existe de manière effectivement éparpillée. Hein. Et même quand on parle quand on prend le faible taux de participation aux élections universitaires, et en même temps on a un important taux de participation aux élections présidentielles, législatives, municipales, ça ne veut pas dire qu'il y a un désintérêt. Un des grands problèmes dans l'université, c'est est-ce que les étudiants se sentent légitimement citoyens de l'université, ou plus exactement, est-ce que l'institution donne aux étudiants les moyens d'être des acteurs et d'avoir une légitimité à s'inscrire là-dedans. Bon, donc c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué, plus nuancé, mais plus réel que simplement s'en tenir à la surface de quelques chiffres.
Mais là, vous calmez le jeu, d'une certaine façon, vous êtes tous dans une forme d'apaisement dans vos discours, mais on est à ce moment précis dans un moment un peu crucial, puisque on a donc un acte sacrificiel qui est de nature à déclencher une colère sociale. Là-dessus se greffe la grève du 5 décembre, avec des syndicats qui demandent éventuellement leur reconduction de la grève. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, dans un conflit qui est en train de grossir, et un conflit qui pourrait devenir un conflit étudiant ?
Je crois, en effet, qu'il y a un mouvement social qui existe en France, mais qui existe d'ailleurs depuis plus longtemps qu'il y a quelques semaines, mois. On avait déjà alerté le gouvernement il y a un an, quand les Gilets jaunes ont commencé, en disant « Attention, on a un problème de précarité dans le monde étudiant, déjà, on le rappelait à ce moment-là. Des gilets jaunes, il y en a qui sont étudiants, il y a des jeunes qui ont mis des gilets jaunes, qui ont été sur des ronds-points ou qui sont venus à Paris manifester. Il faut avancer sur le sujet. Bien sûr qu'il y a une forme il y a un mouvement social qui se structure et qui peut exister. Par contre, maintenant, c'est comment on évite cette crise à l'université. C'est qu'au bout d'un moment, il faut que le gouvernement il se réveille et que là, il investisse avant d'en arriver à cette crise.
Qu'est-ce qu'il peut faire, le gouvernement, pour se réveiller ? Parce que je vois un élu macroniste cité dans Le Monde de vendredi qui dit « Le danger, c'est que des étudiants rejoignent les cortèges de la SNCF et de la RATP. »
Alors, qu'est-ce que vous allez faire, d'ailleurs, Blandine ?
Très certainement. Et la meilleure façon pour le gouvernement, s'il souhaite éviter cette colère, c'est de prendre des mesures... qui prennent le problème à la racine et qui traitent réellement la précarité étudiante.
Quelles seraient les mesures symboliques, enfin les mesures fortes qui devraient être prises pour que vous soyez un petit peu rassurés sur l'avenir?
On en parlait tout à l'heure à propos de la revalorisation immédiate des bourses, à propos de la mise à disposition des logements pas chers et de la salubrité des logements, à propos des services de santé universitaires, à propos de la gratuité des études.
Mais vous êtes bien conscient que tout ça prend du temps.
Je crois qu'il y a...
Il ne peut pas y avoir de réponse immédiate à cela.
Oui, mais sauf que ça, c'est une réponse un peu facile parce que...
Ah non, c'est juste une question.
Ah non, mais bien sûr, mais je vous explique pourquoi ça allait à mon sens. C'est-à-dire que c'est pas un problème nouveau. Enfin, ça fait des années, voire des dizaines d'années. Donc, qu'on alerte sur ce problème. Et là, aujourd'hui, ça pète parce que il y a eu ce geste tragique de notre camarade. Parce qu'il y a aussi tout un contexte social que rappelait à l'instant Orlane. Mais, ça... Mais voilà, ça signifie aussi que si on veut aboutir, si on veut calmer le jeu, il ne s'agira pas de faire des petites mesurettes.
Vous voulez pas tellement calmer le jeu. Il y a un peu deux syndicalismes différents là sur ce plateau, parce que c'est vrai que la FAGE, c'est un syndicat modéré, et vous êtes quand même plutôt un syndicat d'extrême gauche.
C'est-à-dire que si, alors nous on se défend de positions politiques, hein, mais si ce que j'entends par calmer le jeu, c'est-à-dire que si le gouvernement ne veut pas entendre cette colère sociale, ne veut pas que cette colère sociale continue et s'amplifie, eh bien il faut qu'il l'écoute et qu'il prenne de vraies mesures, parce que la précarité étudiante, tant qu'elle existera, il y aura de la colère dans le milieu étudiant et il y aura une volonté de faire changer les choses.
Romy Mordeur.
Oui, sur la dédramatisation, il y a un conflit. Faire société, il y a forcément des conflits. Le problème, c'est comment on a des mécanismes, des dialogues, des négociations. S'il n'y a pas de conflit dans une société, c'est qu'il y a quelque part une sorte de totalitarisme. Il y a forcément des contradictions. Et donc, mais ce qui serait intéressant sans doute aujourd'hui de voir, parce que là j'ai constaté, c'est un peu une question là aux organisations étudiantes, il y a la FAGE qui a reçu, l'UNEF qui a reçu, Solidaire qui a reçu, etc. Chacun son tour. Puisqu'il semble qu'il y ait quelques points d'accord, est-il possible d'envisager d'avoir un rendez-vous commun avec le ministère autour de quelques points minimales, et après chacun peut en rajouter.
Alors, mais déjà, on se retrouve ce soir ensemble pour en discuter. Avec Solidaire, l'UNEF et la FAGE, on se retrouve pour pouvoir en parler entre nous, et puis évidemment avoir des sujets sur lesquels on peut avancer conjointement sur des actions.
Oui, je rappelle que pour le CPE, il y avait le collectif jeune, il y avait tout le monde, la FAGE, l'UNEF, etc. Il faut faire extrêmement attention avec les étiquettes. Je suis pas sûr que Solidaire soit si d'extrême gauche, entre guillemets, que ça, ni que la FAGE soit si modérée que ça. Méfiez-vous de l'eau qui dort.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Méfiez-vous de l'eau qui dort.
Très belle fin.
Ouais, surtout qu'on va la démentir, parce qu'on va mettre le feu maintenant.
Oui,
en musique.
Mais c'est la violence Gilbo. Sociale.
Musicale.
Rendez-vous sur France Inter.
Vous restez toutes et toutes avec nous. Tout de suite, la musique. Un événement, Marion Guilbeault, ce soir dans le NRV.
Oui, on va recevoir Ezra Furman. Alors Ezra Furman, on l'a connu sous le nom de Ezra Furman and the Harpoons, Ezra Furman and the Boyfriends, Ezra Furman et The Vision. Et puis là, aujourd'hui, c'est Ezra Furman and the Band with No Name, mais avec des super combinaisons de pompistes rouges et bleus. Alors, sa voix, son histoire, ce sont celles d'un individu qui se sent au mieux décalé dans son pays natal, les États-Unis, quand ce n'est pas méprisé, opprimé dans ses convictions spirituelles, sexuelles, politiques. Sauf que Ezra Furman n'est vraiment pas le genre à se laisser faire et à la fermer, la preuve.
Quand vous dites n'est pas le genre, c'est un euphémisme, Marion Guilbeault.
Tout à fait, Laurent. Come Down. C'est très ironique. Ça ouvre comme ça son nouvel album 12 Nudes. Alors vous l'entendez, il est remonté comme un coucou, remonté contre la politique de son pays, que ce soit sur l'accès inégal aux soins, le racisme, l'homophobie, le lobby des armes à feu, la liste est longue. Et sa colère trouve, hélas, tous les jours de quoi s'alimenter. Il est devenu ainsi une icône de la marge américaine. Depuis ses débuts, il y a une dizaine d'années, il a suivi plusieurs pistes musicales. On l'a connu glam, doo-wop, cabaret, pop, rock'n'roll, mais pour exprimer toute l'inquiétude et toute la rage que lui inspire le monde d'aujourd'hui et de demain, eh ben quoi de mieux que le punk, un punk inspiré par celui de ses compatriotes du MC5, des Stooges, des Ramones. Son nouvel album 12 Nudes propose 11 titres en 30 minutes, vous faites le calcul, ça fait environ 2 minutes 30 par chanson, c'est tout à fond, comme chantait Didier Vampasse, 11 petites bombes à fleur de peau, et en charmante personne qu'il est, Ezra Furman a choisi ce soir de découpiller la plus douce des chansons, une chanson, ce sont une identité. C'est à vous.
Mmh. are writing their resumes. My responsible friends are applying for jobs. But me, I was considering ditching Ezra and going by Esme. Baby, would you find that so odd? My dying friends are finding religion, while my intellectual friends are all denying God. But me, I got just one ambition. I sit around all day wishing that the real me might be the one you want. I want to be your girlfriend. I want to walk down the street hand on your arm. That's right, little old me. I want to be your girlfriend and leave behind this loveless world I've known. Honey, I know that I don't the body you want in a girlfriend. What I'm working with is less than ideal. But maybe, maybe it's not all about what you thought that you wanted. It's about the way I can make you feel. Ah.
Girlfriend, ça s'extrait de son nouvel album Ezra Furman, avec une magnifique pochette signée par l'illustratrice Christina Dora. Elle est barcelonaise, allez voir sur son site, c'est magnifique. Il y avait Ben à la guitare, Sam à la batterie, Jorgen à la basse. Ezra Furman sera demain soir à la Maroquinerie à Paris. La prise de son ce soir était assurée par Mathias Alléon et Nicolas Cazot. Et le live d'Ezra Furman sera retrouvé aussi en vidéo dès demain.
C'est vraiment un événement, c'est la première
demain,
fois depuis
demain,
la rentrée qu'on filme
à partir de demain
l'artiste.
Sur franceinter.fr.
Et ça
merci beaucoup, Ezra Furman, d'être passé par le nouveau rendez-vous.
Et merci à nos invités. Merci à Amalia Bordet. Merci Robbie Mordeur. Merci Erlan François. Et merci Blandine. Blandine, on vous retrouvera dans les rues le 5 décembre. On a bien compris. Ça, c'était le NRV première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le NRV La Suite, France Inter Plus. Mais demain, dans le NRV, on se pose cette question.
Nous, on embauche d'abord et après, on trouve du travail.
Ça, c'est une expérience. Et si le zéro chômage, c'était possible? On vous attend sur le sujet. Vous pouvez laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Et on lève Marion demain.
Un grand moment aussi, hein, c'est les retrouvailles avec la reine des neiges de la pop indé, la danoise Agnès Obel.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rosic, Christophe Bourseiller, Adrien Nazelli et Clémence Diligent.
Rendez-vous.